Bonjour Jacques Lecacheux.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'université de Pau, pays de l'Adour. Avec vous, on va essayer de décrypter un petit peu ce qui se passe au niveau politique et économique dans notre pays. On a l'impression, c'est peut-être pas qu'une impression d'ailleurs, vous allez me le confirmer, que c'est vraiment le fouillis, le bazar, puisque le gouvernement Barnier a chu ce mercredi 4 décembre. Au fond, qu'est-ce qui a fait basculer la machine, alors que on pouvait s'imaginer qu'on était sur le point de trouver une situation, du moins un plan qui aurait pu, eh bien, aller nous mettre le pied à l'étrier pour relancer la machine économique. Pourquoi ça bloque? Pourquoi on a l'impression que la proposition du projet de loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale sont les deux éléments qui ont fait que tout est tombé?
En réalité, évidemment, ces deux projets comportaient des mesures d'économie importantes, hein, puisque l'objectif du gouvernement Barnier était de réduire le déficit budgétaire pour l'année 2025. Et ça signifiait, bah, à la fois comprimer certaines dépenses et puis augmenter certaines recettes et donc certains impôts, hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, aucun des partis politiques sont représentés à l'Assemblée n'étaient d'accord sur l'ensemble de ces mesures. Donc chacun a voulu finalement obtenir gain de cause sur un certain nombre de ces points, hein, donc certains sur les hausses d'impôts. Diminuer certaines ou supprimer certaines hausses d'impôts, d'autres voulaient ne pas réduire certaines dépenses, comme par exemple les remboursements des frais médicaux ou des choses de genre. Et donc cette espèce de surenchère où chaque parti a posé ses conditions a fait qu'au bout du compte, l'équation était sans solution, hein. Et donc, le gouvernement a fini par refuser un certain nombre de ces concessions qui étaient demandées au fil des jours par les différents partis. Et à ce moment-là, bon, ça a déclenché les motions de censure et puis le vote de censure.
Pourtant, vous nous aviez dit dans une interview précédente, au début de l'automne, que finalement, pour s'en sortir, des mesures strictes étaient inévitables et que de toute façon, ce n'était pas tellement une affaire de sensibilité politique, c'était une affaire aussi de bon sens. C'est une affaire de bon sens de se dire que ben, on ne peut plus dépenser l'argent qu'on n'a pas.
Oui, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Là où les partis divergent, c'est plutôt sur qui et sur quoi doit porter l'effort, hein. Par exemple, les retraités, le gouvernement avait proposé de différer l'indexation des pensions de retraite de 6 mois pour faire des économies, évidemment, puisqu'on gagne 6 mois de non-augmentation des pensions de retraite. Il y a déjà 15 jours, les Républicains avaient obtenu que finalement, ce ne soit pas le cas et que les petites retraites soient indexées dès le 1er janvier et non pas le 1er juillet. Et puis, donc les retraités, les Républicains disent bon, il ne faut pas toucher aux petites retraites. Ensuite, vous avez les macronistes qui ont dit il ne faut pas augmenter les charges sur les entreprises, ou en tout cas pas autant que le gouvernement le propose, parce que sinon, ça va faire augmenter le chômage et on est déjà dans une période difficile. Donc, le gouvernement a en partie cédé là-dessus. Ensuite, les collectivités locales, le Sénat a dit oui, mais il ne faut pas trop demander d'efforts financiers aux collectivités locales. Donc, on a divisé par deux l'effort qu'on demandait aux collectivités locales. Et puis après, le Rassemblement national a dit, eh bien, nous ne voulons pas d'augmentation de la taxe sur l'électricité. Et le gouvernement a dit, OK, on n'augmente pas la taxe sur l'électricité. Et ensuite, le Rassemblement national à nouveau a dit, on ne veut pas de réduction, de diminution des remboursements médicaux. Et là, le gouvernement a dit, ben, on ne peut pas céder sur tout. Et voilà.
Et alors, selon vous, Jacques Lecacheux, sur quoi il faut céder?
Bah, écoutez, moi, évidemment, ce sont des choix politiques, hein, bien sûr, hein, puisque de
Mais c'est
toute
ça
façon,
qu'on a du mal à entendre, que ce soit un choix politique, alors qu'au fond, est-ce que vraiment c'est une affaire politique?
oui, c'est une affaire politique parce qu'au fond, la question, ce n'est pas quel est le montant de l'effort qu'on doit faire. La question, c'est comment on répartit cet effort entre les Français. Hein. Et c'est ça, évidemment, qui est un choix politique. Le choix politique, c'est de dire, par exemple, est-ce qu'on augmente les impôts sur les entreprises ou est-ce que, on diminue certaines dépenses qui profitent aux ménages? Le choix politique, c'est aussi est-ce qu'on fait payer plus les ménages aisés ou est-ce que tout le monde va devoir faire un effort, etc., etc. Donc, vous voyez que le choix politique, il est vraiment non pas dans le montant de l'effort, mais dans la manière dont il est réparti entre les différentes catégories de la population.
Alors, je vais poser ma question un peu différemment. Est-ce que l'économiste que vous êtes pense qu'il y a une répartition de cette charge que représente la dette plus idoine qu'une autre?
Alors, mais c'est vraiment cette fois, encore une fois, l'économiste, il a ses opinions comme tout le monde, hein, et il n'est pas neutre dans ces affaires-là,
Bien sûr.
bien sûr, mais on voit bien, si vous voulez, qu'il y a quand même des choses qui seraient à la fois politiquement plus supportables, et puis qui seraient d'une certaine façon plus justes. Comme par exemple, justement, augmenter un peu les impôts sur les plus riches, ou bien parce qu'on voit par exemple que depuis une dizaine d'années, les plus riches ont vu leurs revenus et leur patrimoine s'accroître beaucoup, beaucoup plus vite que la moyenne de la population, et puis donc ils ont les moyens, disons, de payer un peu plus, et qu'ils ont aussi bénéficié d'un certain nombre de crédits, de cadeaux fiscaux depuis 2017. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on voit. Et de la même façon, je crois que j'avais évoqué la dernière fois et j'y reviens, le fait que, par exemple, parmi les retraités, il y en a qui sont évidemment qui touchent des pensions très modestes, mais il y a aussi quand même des retraités qui sont relativement aisés et qui pourraient contribuer, ce qu'avaient proposé par exemple les Républicains, c'est-à-dire de différer l'indexation seulement pour les retraites au-dessus d'un certain montant et pas en dessous. Ça peut paraître une solution, on va dire, relativement juste et raisonnable. Vous voyez que mais ce sont vraiment des choix sur qui on fait porter l'effort. Ça, c'est vraiment un choix.
Finalement, le choix économique le plus juste, ça n'est pas que tout le monde supporte de la même manière, mais que chacun supporte à la mesure de ce qu'il peut et de ce qui est cohérent avec ses
Voilà.
réalités de vie.
Absolument. C'est-à-dire que on voit bien que, alors, encore une fois, la question de la justice, c'est une question extrêmement complexe, effectivement, hein. Les économistes, ils n'ont pas la vérité révélée en matière de justice. On a, comme tout le monde, ses opinions sur cette question, mais on voit bien que faire porter l'effort principalement sur ceux qui en ont le plus les moyens, c'est quelque chose qui peut paraître à la fois juste et raisonnable,
Eh
surtout dans
oui.
une période où beaucoup de gens ont des problèmes de pouvoir d'achat, etc., parce qu'on sait que la situation est difficile pour un certain nombre de gens et que donc, voilà, et pour d'autres, elle l'est moins, on le sait aussi.
Alors, en attendant, nous nous retrouvons sans gouvernement et donc sans vote du budget. Que risque-t-on? Quelles sont les conséquences directes, concrètes pour l'État et puis pour nous, les Français, au quotidien? Qu'est-ce qui va se passer sans gouvernement et sans budget?
Alors, ce n'est sans doute pas le cataclysme que certains ont évoqué au cours des derniers jours. On voit par exemple que les marchés financiers s'attendaient à tout ça, puisque quand on regarde les taux auxquels la France emprunte en ce moment, aujourd'hui, ils sont un petit peu plus bas que ceux d'hier ou avant-hier. Donc, il n'y a pas de tension très forte du côté des emprunts de l'État. Les
Ça,
investisseurs sont.
pardon, Non, mais ça veut dire que les États auxquels nous empruntons nous font confiance finalement, sont sûrs qu'on va remonter la pente. Enfin, ils
Alors,
sont.
ce ne sont pas les États, hein, ce sont des investisseurs privés, des fonds de pension, des banques, des assurances, etc. Je crois que oui, je crois qu'ils s'attendent pas à une catastrophe, hein, parce que sinon on aurait déjà une envolée des taux d'intérêt sur les
Ah
emprunts français et on la constate pas, hein. Au contraire, ça a même un tout petit peu baissé depuis 2 ou 3 jours. Donc ça veut dire que bon, évidemment ils sont inquiets, ils réclament un taux d'intérêt un peu plus élevé qu'il y a 1 ou 2 mois, mais quand même
ils sont
pas.
confiants.
Ils ont l'air relativement confiants quand on en juge encore une fois, ce que les marchés nous révèlent. Mais alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bon, d'abord, on ne sait pas quel va être le délai avant la nomination d'un nouveau gouvernement. Ça peut aller très vite ou pas très vite, hein, on n'en sait rien, on le saura dans les jours qui viennent, peut-être ce soir, mais enfin, en tout cas, voilà. Et puis ensuite, ce qui va se passer, bah, c'est que il va être certainement très difficile pour ce nouveau gouvernement de faire adopter le budget avant le 31 décembre, sauf si il reprend à peu près la même copie que le précédent gouvernement, le même budget qui était proposé par le précédent gouvernement. Mais là, on voit mal comment il pourrait passer alors qu'il était censuré. Donc, ça veut dire très probablement qu'on va avoir ce qu'on peut appeler un budget provisoire, c'est-à-dire que quand le budget n'est pas voté par le Parlement avant le 31 décembre, eh bien, on reconduit en fait le budget de l'année précédente, c'est-à-dire le budget actuel de 2024 pour l'année 2025. Et donc, bah, tout va continuer, hein. Je veux dire, on n'est pas dans une situation à l'américaine où, quand le Sénat vote pas une certaine loi, on renvoie les fonctionnaires chez eux parce que l'État peut plus les payer. Hein, ça n'existe pas en France, hein. Donc,
Par contre, qu'est-ce qui va se passer pour, je pense aux agriculteurs notamment, qui ont eu quand même des promesses, elles pourront pas être honorées si le budget n'est pas voté.
Alors, si, parce qu'en réalité, si vous voulez, la loi spéciale qui sera adoptée par le Parlement pour en quelque sorte prolonger le budget 2024 peut prévoir des dépenses pour les agriculteurs, etc. Et donc, parce que l'idée, c'est d'assurer la continuité de l'État, hein. Encore une fois, on n'est pas dans la dramaturgie américaine où on dit voilà, il va y avoir un shutdown, on renvoie tous les fonctionnaires chez eux parce qu'on peut plus les payer, l'État n'a plus le droit d'emprunter, etc. Tandis que là, en France, non, tout va continuer. Simplement, évidemment, on va pas pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de mesures nouvelles, etc. Et puis, il va falloir aussi faire des choses, par exemple, du côté des impôts sur le revenu, parce que, en l'absence de loi de finances, eh bien, les impôts sur le revenu de ceux qui en payent augmentent automatiquement parce qu'on n'a pas indexé le barème. Hein, et donc, il peut, il, si on,
Donc
si on
là, il y
fait
aura une
rien.
conséquence directe. Voilà.
Voilà. Si on fait rien, il va y avoir à peu près 400 000 personnes, foyers fiscaux, qui n'étaient pas imposables en 2024 et qui le seront en 2025. Et puis, tous ceux qui sont déjà imposables verront leur impôt augmenter automatiquement à cause de l'inflation. Mais ça, si vous voulez, c'est une menace très théorique parce qu'en réalité, évidemment, le Parlement peut, dès les premières semaines de 2025, adopter une loi pour dire bah, non, on va empêcher ça, et donc ça n'arrivera pas, parce que ça n'arriverait de toute façon qu'au mois de juillet, hein, puisque les impôts sont recalculés juillet, une fois après les déclarations de revenus, pardon. Et donc, il y a quand même le temps entre le 1er janvier et le mois de juillet d'empêcher que ça se produise. Hein. Donc, c'est
Bon,
plutôt théorique que ça.
donc en fait, sans gouvernement, les choses vont continuer,
Oui.
c'est ce que vous nous dites, mais donc aussi le trou va
Ah
continuer
ben,
aussi à se
alors c'est
creuser.
ça. Le gros problème, si vous voulez, c'est que le déficit va augmenter automatiquement, hein, parce que on n'a pas pris encore les mesures de correction qu'il faut prendre pour le ramener sur une trajectoire plus raisonnable. Et donc, ça veut dire qu'en 2025, le déficit sera encore plus élevé qu'en 2024. Alors, en 2024, on prévoit déjà 6,1, 6,2 % du PIB. Et donc, en 2025, si rien n'était fait, on aurait plus. Et ça, évidemment, c'est inquiétant. Et puis, c'est contraire aux règles européennes, en plus.
Ah oui, alors ça, c'est la dernière question. Justement, quid de nos relations avec l'Europe? On en avait déjà un petit peu parlé la dernière fois, mais tout ça, en fait, est-ce que c'est pas un engrenage qui fait que tout va se dégrader, y compris notre relation et nos relations de confiance avec les autres pays de l'UE?
Alors,
Finalement, on est un peu la Nouvelle Grèce.
oui, pas tout à fait quand même, parce que la Grèce était dans un état financier bien plus dramatique que nous, hein, quand même, quand la crise s'est produite. Mais et puis la Grèce est un petit pays, si vous voulez. La France, c'est quand même le deuxième plus grand pays d'Europe après l'Allemagne. Et donc, si la France était dans une situation dramatique, c'est l'ensemble de l'Europe qui serait dans une situation dramatique. Donc ça, c'est une grande différence quand même. Alors, ce qui est, si vous voulez, la Commission européenne a, la semaine dernière, validé la trajectoire budgétaire que le gouvernement Barnier lui avait envoyée, hein, pour jusqu'à 2029. Elle a fait comme si c'était possible. C'était pour ne pas ajouter du chaos au chaos, hein, parce qu'en réalité, elle savait très bien que c'est pas ça qui serait adopté par le Parlement. Mais elle a fait comme si, oui, ça se ferait quand même. Donc pour l'instant, la Commission européenne ferme les yeux, dit bon, espérons que la France va réussir à se mettre d'accord sur un budget raisonnable dans des délais raisonnables. Mais évidemment, si ça n'était pas le cas, ben, on entrerait dans un engrenage dans lequel la France serait condamnée par l'Europe, aurait peut-être des sanctions financières, etc. Donc là, c'est beaucoup plus embêtant, évidemment. Mais pour
Voilà,
l'instant,
bon.
là, oui, on y croit.
Et pour l'instant, on y croit. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci pour votre optimiste, Jacques Lecacheux. Donc, je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université Pau Pays de la Dour. Merci beaucoup pour votre éclairage, un éclairage dont on aura sans doute encore besoin au cours des mois à venir.
Merci à vous.